midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Mon invité, c'est Salima Tenfish. Aujourd'hui, bonjour Salima.
Bonjour Philippe.
Vous enseignez le cinéma.
C'est ça.
À la Sorbonne. Et vous publiez Beurette, un fantasme français aux éditions du Seuil. Alors, donc, vous êtes la co-auteur, hein.
C'est ça, puisque Sarah Difala, ma co-auteur et amie, n'a pas pu être présente, elle s'excuse.
C'est une enquête qui a été commencée il y a 3 ans. Qu'est-ce que vous vouliez montrer dans ce livre ?
Beaucoup de choses. Peut-être d'abord pour commencer, je peux dire que notre point de départ, c'était le fait que toutes les deux, alors qu'on est des amies d'enfance, on s'est rendu compte un jour qu'en discutant, qu'on avait toutes les deux refoulé notre culture algérienne, puisqu'on est toutes les deux d'origine algérienne. Et c'est ça qui nous a donné envie de démarrer cette enquête, c'est-à-dire d'aller auprès d'autres femmes comme nous, qui sont françaises d'origine maghrébine, et qui, elles aussi, peut-être, avaient une difficulté avec cette double culture.
D'accord. Mais vous n'en parliez pas du tout ?
Non, c'est ça qui est dingue. Alors qu'on est toutes les deux kabyles, on est toutes les deux bilingues, berbérophones, et je crois que...
Vous parlez toutes les deux kabyles, hein.
Ouais, on parle toutes les deux kabyles, et pourtant, on n'a jamais parlé ensemble de nos origines, de notre culture, à part à de très rares exceptions, et ces exceptions, c'est toujours pour se moquer de la culture de nos parents.
Mmh. Vous avez gardé le silence sur cette double appartenance, dites-vous. Mais c'était quoi, de façon tacite, ça se passait comment ?
Mais alors, pour chacune, ça a pu être un peu différent. Donc, moi qui viens d'une famille assez nombreuse, avec mes frères et sœurs, par contre, on parlait de cette double culture. Donc, ça pouvait être soit pour se raconter. Donc, mon frère, surtout mon frère aîné, lui qui est né dans les années 70, lui, c'était clairement pour raconter qu'il subissait des discriminations, donc des contrôles aux faciès, je me souviens très bien de cette histoire qu'il n'avait pas pu rentrer en boîte de nuit, que beaucoup d'autres filles qu'on a rencontrées nous ont raconté de leurs frères. Et avec mes sœurs, c'était pour dire à quel point cette culture traditionnelle nous entravait, nous empêchait. C'est ce qu'on se disait dans le dos de nos parents.
Vous expliquez hein, que, par exemple, votre père switchait.
Ouais.
Hein, du kabyle au français pour vous parler.
Ouais, ouais.
Ça donnait quoi dans le...
Concrètement, ça donnait, je l'écris par exemple dans le texte, je me souviens dans le bus par exemple, il pouvait me dire « Qim tranquille, moulesh tam tothayir, elle va s'énerver, adzolatom berdachem » par exemple. Donc ça, je viens de dire « Reste tranquille, sinon la femme, sous-entendu la femme assise à côté de toi, elle va s'énerver et là tu vas voir à la maison, je vais te régler ton compte, quoi. »
Et ça, pour vous, c'était la honte à l'international ?
Alors, c'était pas... Justement, pour Sarah, c'était la honte qu'on lui parle arabe, et pour d'autres filles qu'on a interrogées, moi, ou kabyle, moi, la honte, c'était plutôt le fait que mon père ait un accent ou qu'il s'énerve dans les administrations, où je me souviens, c'est ce que raconte aussi une autre fille qu'on a interrogée, à la poste, où je me souviens de détails comme ça. Où à chaque fois mon père s'énervait ou prenait un accent, je me disais oh là là, c'est la honte. Et après je me suis rendu compte en grandissant qu'il y avait plein d'autres gens qui étaient pas forcément d'origine maghrébine, où les parents n'avaient pas d'accent, qui avaient aussi la honte parce que leurs parents perdaient leur calme devant les administrations, bien justifié d'ailleurs.
Maintenant on appelle ça la glottophobie et le terme est popularisé. Mais c'était de la glottophobie.
Ouais, c'est ça, c'était de la glottophobie. Et moi, ce qui m'a frappé en menant cette enquête avec Sarah, c'est à quel point cette honte de soi pour notre génération, et donc nous, on a 37 ans, et pour celles qui sont encore plus âgées que nous et plus jeunes, donc on a rencontré des filles de 18 à 50 ans environ, et ben cette honte de soi, elle est partagée. Alors que j'aurais pu imaginer, dans un premier temps, avant de me lancer dans l'enquête, que finalement, c'était un problème générationnel, et que peut-être les enfants d'immigrés qui sont arrivés dans les années 60 avaient peut-être moins cette honte. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'elle était partagée.
Vous vouliez à tout prix vous défaire de la culture algérienne de vos parents. Mais comment est-ce que vous faisiez, par exemple, dans la façon de vous coiffer, est-ce que vous tiriez les cheveux pour qu'ils soient lisses ?
Ouais, c'est ça exactement. Donc Sarah, ma co-auteure, elle raconte très bien comment elle a commencé à se lisser les cheveux à partir du lycée, je crois, et puis que à partir de là, elle pouvait plus se voir dans le miroir avec les cheveux bouclés. qu'elle avait, très jolie d'ailleurs quand on était petite, mais pour elle c'était très important, il fallait se lisser les cheveux parce que c'est comme ça qu'elle se trouvait belle. Mmh. Et moi je trouve que ça, c'est, ça montre à quel point le racisme intériorisé est violent et quelque chose qui a des effets non pas que intellectuels mais réels et physiques. C'est-à-dire que ces filles, elles se lissent les cheveux parce qu'elles se trouvent sincèrement plus belles avec les cheveux lissés. Et quand on les laisse, quand on leur dit mais regarde tes cheveux, ils sont hyper beaux, ils ont des très belles boucles, il y a des filles qui payent des millions pour avoir les cheveux bouclés comme toi, et ben elles répondent que non, pour elles c'est insupportable de se voir les cheveux au naturel.
D'ailleurs, c'est très marrant de voir comme quoi comment les gens qui ont les cheveux raides veulent les cheveux bouclés, ceux qui ont les cheveux frisés veulent les cheveux raides. Ouais, ça, c'est un truc de folie.
C'est l'attraction de la différence, peut-être, mais Sarah, qui aujourd'hui est tout à fait consciente de ça, c'est-à-dire que c'est l'intériorisation d'un racisme envers les personnes typées aux cheveux bouclés, puis c'est comme ça qu'on se représente les maghrébins, alors que par ailleurs si on connaît bien ces peuples, en fait il y a plein de gens qui ont les cheveux raides, dans ma famille il y a moitié des filles qui ont les cheveux raides et l'autre moitié bouclés, mais le typage raciste
faut vous êtes bouclé, hein, comme on fait de la radio, ça se voit pas
ouais,
forcément,
moi je suis bouclé
ouais,
bouclé,
tendance bouclée
je suis tendance affirmation de la boucle, et j'ai mes deux sœurs aînées qui ont les cheveux raides, et on sait bien que c'est du typage, c'est le typage raciste qui fait qu'on représente les maghrébins que comme moi, c'est-à-dire avec le teint mat, les yeux bruns et les cheveux bruns et bouclés.
Mmh. Est-ce qu'avec du recul, cette différence et le fait de vouloir ressembler à une Parisienne, ça vous a aidé dans votre carrière, dans vos carrières respectives, ou ça n'a servi à rien ?
Bah moi en tout cas pour mon compte je dirais que finalement c'est pas que ça a servi à rien, c'est même que ça m'a empêché d'aller plus rapidement vers là où je me trouve. C'est-à-dire que moi donc j'ai fait d'abord une hippocagne, une cagne en lettres modernes, et ensuite j'ai fait Sciences Po à Lille, et à chaque fois pendant mes études je m'empêchais de traiter des sujets de la littérature ou ensuite en sciences politiques, de sujets qui concernaient l'Algérie, les Kabyles ou le Maghreb ou la Méditerranée ou quoi que ce soit qui puisse avoir à faire.
Vous n'aviez pas ni d'attirance ni de goût.
Ah non,
ni
mais
de...
c'est même pire que ça, c'est-à-dire que je faisais un rejet, c'est-à-dire que je disais non mais moi c'est pas mes sujets, je vois pas pourquoi je devrais traiter ça. Moi je suis née à Paris dans le 14e, dans ce cas j'ai qu'à faire un sujet sur la Seine, je vois pas pourquoi je devrais faire un sujet là-dessus. Donc, c'était très violent quoi dans ma tête. Et au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, j'ai changé pas mal de fois de boulot. Et puis je me suis retrouvée après avoir été consultante dans un, moi ce que j'appellerais un bullshit job, dans un cabinet de conseil lambda, je me suis retrouvée à Nanterre, au cabinet du maire de Nanterre, et c'est là que, avec les élus issus de l'immigration maghrébine, qui étaient très 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 militants, certains avaient fait la marche des beurs, avaient accueilli la marche des beurs, plusieurs avaient connu les bidonvilles de Nanterre, et c'était des élus très affirmatifs dans leur identité, en tout cas différents dans le multiculturalisme, et à la fois très apaisés avec cette identité, qui m'ont fait ouvrir les yeux, moi je dirais. En fait, c'est là que j'ai commencé à me dire, mais en fait, toi, Salima, bah toi, t'as un problème avec ça. C'est-à-dire que c'est pas que tu te désintéresses de ces sujets, de cette littérature, c'est que toi, t'as pas accepté le fait que t'étais une femme d'origine maghrébine et que donc en France on t'appellerait une arabe, même si je suis kabyle, mais en France on dit les arabes. Et ça m'a frappé. Puis il y a eu un bouquin aussi un jour, j'écoutais alors c'était pas ton émission Philippe, mais ça aurait pu être celle-là. C'était un bouquin qui s'appelle Saint-Denis bout du monde, où le personnage principal se rend compte à 35 ans qu'elle est arabe. C'est-à-dire, elle se regarde dans le miroir et elle se dit, mais en fait, je suis arabe. Les arabes, c'est moi. Et là, tout d'un coup, ça débloque quelque chose dans son parcours. Et moi, ça a été exactement comme ça. Donc, ça a commencé comme ça. Puis ensuite, je me suis dit, mais en fait, t'es complètement taré. Pourquoi tu rejettes tout ça? Enfin, surtout, il n'y a pas de honte à avoir. Et au contraire, c'est plutôt une richesse. Donc, j'ai commencé à me rendre compte de ça, que j'avais intériorisé un discours républicain assimilationniste, c'est-à-dire d'effacement de la différence, d'effacement de la culture d'ailleurs, et en particulier de la culture dite arabe, c'est-à-dire de la culture maghrébine en France. Mmh.
C'est-à-dire que, par exemple, Kateb Yassine, vous ne lisiez pas, Matou Bounès,
vous
n'écoutiez
pas. Exactement, je n'avais jamais lu Nejma. Alors, voilà. Matou Bounès, il y a quand même une exception, c'est que mes parents sont très kabylo-kabyles.
Bon, donc, Matou avait le droit de citer à la maison.
Il avait le droit, ouais, il était là. Et Slimane Hazem, il était là.
Ah oui, bon, oui, il y avait quand même la base.
Ouais, parce que je pense que je peux le dire ici à Beurre FM, on comprendra cette identité kabyle qui est une identité politique aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas que une question purement ethnique. C'est une revendication politique. Et tout ce qui était du champ politique, par contre, ça, moi, ça ne me posait pas problème, parce que j'avais été un peu militante d'extrême gauche. Donc, j'avais accepté cette identité, mais en tant qu'elle était politique, en tant qu'elle contestait le pouvoir algérien, mais pas ethnique. C'est-à-dire, ça, ça me posait problème. Et d'ailleurs, je me souviens que je disais, bah, je suis kabyle quand on me demandait. Et ça, par contre, c'était un lieu de fierté. Mais à la fois, quand j'ai commencé à me rendre compte que dire je suis kabyle, c'était ne pas dire je suis arabe, j'ai commencé à me dire, mais ça va pas, parce que si je dis ça, on va croire que c'est parce que j'ai honte de dire que je suis arabe et que c'est pour ça que je dis que je suis kabyle. Donc je me suis mise à rien dire du tout.
Il y a une question d'ailleurs que toutes les deux vous n'aimez pas, c'est « et toi tu viens d'où ?» Et je crois que tout le monde est confronté à cette question d'ailleurs, hein. D'où qu'ils viennent ?
Ouais. Ben, ça, c'est vrai que ça peut paraître...
Pourquoi elle vous pose autant de problèmes, cette question?
Parce que c'est une question qui peut paraître anodine, c'est-à-dire qu'on peut se dire, bah, après tout, c'est juste une manière d'engager la conversation, je vois pas où est le problème, quand quelqu'un a un accent du Sud chantant, on lui demande bien d'où il vient, bon. Mais sauf que ça marche pas comme ça, parce que lorsqu'on demande à... par exemple, à moi, quand on me demande d'où tu viens aujourd'hui, je suis apaisée, j'ai fait tout ce travail dont je parle et je suis très heureuse de dire bah, mes parents sont algériens, mes parents sont kabyles et de parler de cette culture parce que je l'ai acceptée, parce que maintenant j'en suis plutôt contente et je trouve que c'est une richesse. Mais pendant très longtemps, quand je vivais mal cette identité parce que je la voyais comme une manière d'être discriminée, c'est-à-dire d'être désignée comme différente, d'être désignée comme l'autre, j'étais rappelée à cette différence, c'est-à-dire dire à quelqu'un tu viens d'où alors qu'il vient du 14e arrondissement et qu'il a grandi à Paris, ou lui dire ah ben toi tu dois bien aimer la chaleur, ben non en fait moi j'ai grandi à Paris, la chaleur j'aurais bien aimé la voir, ouais mais en fait je l'ai pas vécu, et être toujours ramenée comme ça à sa différence, même si c'est fait de manière bienveillante, évidemment que c'est fait de manière bienveillante, c'est pour draguer, pour engager la conversation, pour être sympa. Mais pourquoi ne pas le faire autrement? Et surtout, on sait bien quand on est d'ailleurs, que quand on nous pose cette question, c'est parce que on nous identifie immédiatement comme différents. C'est ça qui nous pose problème. Non pas que la question soit agressive, non pas que la question soit malveillante, on sait bien, mais c'est qu'elle nous pointe, elle nous désigne comme autre.
Alors que quand on se rencontre à l'étranger, tu viens d'où? Je viens de France.
Ouais.
Et là, ça pose pas du tout de problème. En fait, on cherche pas à savoir, on va pas plus loin.
Ouais, complètement, c'est ça. Et là, pour le coup, quand on est à l'étranger et qu'on nous demande tu viens d'où, on sait que quand on va répondre tu viens de France, on va pas nous dire ah bon, mais pourtant t'as une tête de ceci, non, cela.
T'es française, c'est-à-dire comme que... moi en fait.
Ouais, exactement.
On va pouvoir se parler.
Ouais, exactement. C'est exactement ça.
Bon, on parle de votre livre Beurette, un fantasme français qui vient de sortir aux éditions du Seuil et Salima Tenfich. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors le livre dont on parle aujourd'hui s'appelle Beurette, un fantasme français au seuil. Et c'est Salima Tenfich qui est une des co-auteurs de ce livre qui est avec nous jusqu'à 13h. Je disais que c'était une enquête. Alors c'est pas une enquête scientifique, mais vous avez lancé un appel à témoignages ouvert à des femmes d'origine maghrébine âgées de 18 à 50 ans. Elles ont toutes fait des études.
Oui, des études supérieures, ouais, oui, presque toutes, presque toutes, puisqu'une certaine était encore étudiante quand on les a rencontrées, et deux avaient des métiers qui ne nécessitaient pas de faire des études supérieures.
Donc il y a Jeannette Bougrabe, hein, il y a Lisa Boutelja qui a inventé le concept de beurrétocratie, dont on parlera tout à l'heure, hein, un univers dans lequel les femmes maghrébines sont libres et indépendantes, et qui mènent un combat justement autour de la déconstruction de cette image de la beurette. Zaya Ziwani également, qui
chef
est
d'orchestre.
Chef d'orchestre. Oui, donc il y a beaucoup de femmes que vous avez que vous avez rencontrées. Est-ce qu'elles ont toutes accepté, les femmes que vous avez sollicitées?
Non. Enfin, celles qui sont dans les oui, bien sûr. Mais oui, on a interrogé. En tout cas, on a demandé à d'autres femmes. On a demandé, par exemple, bien sûr, à Rachida Dati. On aurait été très heureuse d'avoir son témoignage, qui finalement n'a pas pu.
Elle n'a pas pu pour des questions d'agenda?
Oui, c'est ça.
D'accord. Okay,
c'est on a demandé aussi à Samia Ghasmi à Marseille, qui finalement n'a pas pu. Pareil pour des questions d'agenda. Najat Vallaud-Belkacem également, qui a donné quelques réponses mais qui s'est pas prêtée non plus au jeu. Et donc bon, on saura jamais si c'est parce que elle ne souhaitait pas associer leur image à un travail sur les beurrettes ou si elles avaient réellement pas le temps. En tout cas, elles ont bien accueilli notre démarche, hein, les trois femmes que je viens de citer, mais on n'a pas eu la chance de pouvoir les interroger.
Alors, il y a pas mal de questions que vous vous posiez, vous, et vous vous êtes demandé si ces femmes-là s'étaient posées ces questions et comment elles se comportaient dans un certain nombre de situations, que ce soit religieuses, savoir si elles fumaient en famille
cachette.
Ou en cachette,
ouais.
Si elles étaient mariées, si elles étaient restées vierges avant le mariage. Enfin, il y a beaucoup de sujets de société, si elles mangeaient du porc, par exemple.
Le grand tabou, le porc.
Si elles étaient hétérosexuelles ou qu'elles avaient une autre sexualité. Mm. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions de société que vous avez posées.
Ouais, parce que nous, donc toutes les deux, Sarah Difala et moi-même, on a discuté d'un certain nombre de ces sujets, mais on s'est demandé, et c'était le point de départ de notre enquête, si c'était un ressenti individuel qui se trouvait être un peu similaire chez elle et chez moi, ou s'il y avait une dimension collective là-dedans et donc politique, ou du moins, en tout cas, de réaction par rapport à l'image que les Arabes, comme on les appelle, avaient en France. Et c'est pour ça qu'on a voulu interroger ces femmes sur toutes ces questions, donc que tu viens de citer, leur rapport à la religion, à la pratique religieuse, à leurs croyances, leur rapport à la sexualité, est-ce qu'elles étaient vraiment restées vierges jusqu'au mariage, comme on se l'entend dire, est-ce qu'elles correspondaient aux clichés, qui soient d'ailleurs positifs ou négatifs, qu'on a dans la société française des femmes d'origine maghrébine, qu'on appelle les femmes arabes.
On est d'accord, tout le monde est d'accord sur l'origine du mot beurrette?
Non, parce que, en tout cas, beurrette oui, mais beurre non. Quand on a interrogé notamment la sociologue Nassira Ghenif Soulemas, qui est la précurseur hein, de ses travaux sur les femmes d'origine maghrébine, elle nous a expliqué que elle se demandait toujours si le mot de beurre était le verlan de rebeu ou si c'était pas plutôt beurre qui était à l'origine de l'inversion de harobi qui veut dire arabe en arabe. Bon, donc nous non plus on l'ignore. On a interrogé les femmes qu'on a rencontrées là-dessus qui toutes pensaient comme ce qu'on imaginait à l'origine, ouais. C'est-à-dire tout simplement que beurre c'était le verlan de arabe. Donc c'est une apocope, c'est-à-dire
beurrette était donc le féminin,
et beurrette, ouais. Le féminin condescendant, on peut dire de beurre, puisque sinon ça devrait être beurre avec un e à la fin. Et beurrette, il y a l'idée que c'est une petite chose fragile, que c'est une chose moins importante que le beurre, que donc c'est avec ce suffixe qui est condescendant.
Alors aujourd'hui, après être tombé en désuétude, le mot revient avec une nouvelle acception. Hein, comment est-ce que on est passé de la beurrette, symbole républicain d'intégration réussie, à la figure de la michetonneuse?
Ouais. Alors ça, c'était un des points de découverte hein, de notre enquête, puisque nous, on en était restés à la définition, donc beurrette, symbole, effectivement, comme tu l'as très bien dit, de réussite, d'intégration, enfin d'intégration réussie républicaine. Et dans notre enquête, on a découvert qu'aujourd'hui, beurrette, ça veut plus du tout dire ça, mais ça veut dire jeune fille vulgaire, très maquillée, presque prostituée, et que dans les cours d'école, alors ça c'était le pire, beurrette à chicha était devenue une insulte qu'on peut adresser à n'importe quelle petite fille qui n'est pas forcément d'ailleurs une rebeu. Ça s'est démocratisé en quelque sorte, l'insulte sexiste et raciste s'est démocratisée et peut s'adresser à n'importe quelle petite fille. Bon, alors moi je dis ça en rigolant, bien sûr c'est terrible puisque nous on pensait, en démarrant cette enquête, donc on a 37 ans toutes les deux, on pensait que beurrette c'était simplement désuet et que ça avait disparu et c'est pour ça qu'on n'entendait plus parler de ce mot puisque effectivement quand on était beaucoup plus jeune, quand on avait 15 ans, il y a 20 ans, on entendait beurrette, on nous le disait pas trop mais on l'entendait, on savait que beurrette ça voulait dire fille d'origine maghrébine et que c'était surtout utilisé par ceux qui n'étaient pas maghrébins, ceux qui n'étaient pas d'origine maghrébine. Donc c'était un mot halogène qui s'adressait à nous, et donc ça pouvait nous déranger parce qu'encore une fois, c'était pas un terme qu'on employait nous-mêmes pour nous désigner. Mais en faisant l'enquête, on a appris que non seulement c'était devenu une insulte, mais que c'était devenu une insulte parce que beurette était la première recherche sur les sites pornographiques. C'est une catégorie porno.
Et qui fonctionne très très bien. Donc
Oui.
Non, c'est ça qu'il faut
c'est ça.
Qu'il faut comprendre.
C'est la première recherche.
C'est celle qui a le plus de succès.
Ouais,
c'est ça.
Exactement. Ouais. C'est-à-dire que c'est un fantasme pornographique, en tout cas sur ces sites et auprès des clients de ces sites porno. Ouais.
Et c'est, on est le seul pays au monde finalement qui
en tout cas en Europe,
une recherche, oui.
En Europe, on est la France en tout cas à cette catégorie dans le top de ces recherches, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, ce qui n'est pas le cas en Italie ou en Espagne. Et c'est là où, selon nous, on peut, ce que ça dit de notre société et de notre histoire, c'est que on peut assez facilement comprendre que si cette catégorie fait fantasmer, c'est-à-dire que si la femme arabe, qu'elle soit d'ailleurs voilée, c'est ça qui est incroyable, hein, puisqu'on a mené quand même notre petite enquête, on n'était pas adepte de ces sites porno, mais on a mené l'enquête et on a découvert que non seulement il y avait des films pornographiques ou des images pornographiques de femmes voilées dont il était question, qu'il fallait dévoiler. D'accord, donc le dévoilement était l'objet de l'intrigue pornographique, ou alors des femmes très très totalement hypersexualisées. Donc on avait les deux extrêmes, c'est-à-dire la femme arabe hypersexualisée, la femme musulmane voilée, et les deux étaient l'objet de fantasmes.
Alors Salima, tiens, on va écouter une chanson extraite de la bande originale de votre livre. Alors El Matador,
ouais.
Les Beurettes, on expliquera. Pourquoi ce texte tout à l'heure?
El Matador, Beurette aime les rappeurs et les footballeurs. Elle aime le métissage, mélange de couleurs. Beurette est maghrébine, mais les UV lui donnent un teint orangé. Traite-la de billard, ça va pas la déranger. Elle veut un fils qui ressemble à Booba. Destination préférée, Marrakech ou Dubaï. Elle change de prénom, elle a honte du ciel, elle se trouve un joli pseudonyme. Un blaze d'actrice porno, ça sonne un peu plus clean. Et lorsque tabou est le sujet, chicha en bouche, elle dit qu'il y a que Dieu qui peut la juger. Beurette écoute du rap US à la salle, elle travaille ses abdos fessiers. Sur les réseaux sociaux, elle se sent oppressée, bercée aux zig de Cher R. Kelly. Elle est plus attirée par Abdoulaye que par Mehdi. Elle devrait assumer, c'est pas un délit. Beurette se ment à elle-même, pour ça qu'on lui apporte peu de crédit. Les Beurettes aiment les black, 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 black. Les Beurettes aiment le swag, 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 swag. Les Beurettes aiment les boîtes, 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 boîtes. Champagne, bouteille de Jack, 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 Jack. Et elles n'ont pas peur de se ficha, ficha. Elles remuent ses fesses dans la chicha, chicha. Dans le carré VIP au fichal, fichal. Elles vont m'en vouloir d'avoir dit ça. Beurette s'identifie à Kim Kardashian. Elle veut son Kanye West car elle a pas d'argent. En boîte elle s'assoit qu'à la table des grossistes. Tu lui offres 3-4 verres en échange d'un 06. Sur Instagram ses grosses fesses sans photo de profil. Un lissage brésilien ou brushing avec des fossiles. Elle aimerait être une star et percer dans la télé-réalité. Le monde à l'occidental a déraciné. À la maison elle a l'air d'une fille sage, mais c'est une fois dehors qu'elle montre son vrai visage. Quand tu la croises tu fais arrêt sur image. Un peu comme Bella, elle fait trembler tous les villages. Les Beurettes aiment les black, 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 black. Les Beurettes aiment le soir.
Alors Salima, explication de texte.
Ben déjà merci de l'avoir repassé parce que là on se rend bien compte de ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire que la
là on est dans le cliché, le ouais, stéréotype.
On est dans tous les clichés de la femme arabe hypersexualisée. Donc c'est un des points de l'éventail que je décrivais tout à l'heure, hein, à un de ces points cardinaux, il y a la femme hypersexualisée et à l'autre, la femme musulmane voilée. Là, je trouve ce qui est frappant dans la chanson de El Matador, c'est que il accumule donc tous les clichés de la beurette à chicha, hein, donc il le nomme d'ailleurs, hypersexualisée, qui a une qui est très vulgaire, qui est maquillée, qui a du fond de teint, enfin qui fait des UV et qui
orange, oui.
qui est orange parce qu'elle se met du fond de teint, enfin de l'auto-bronzant. Et moi, ce que je trouve malgré tout intéressant, c'est que dans une des paroles de Jean, il dit qu'elle devrait assumer et que si on l'attaque, elle dit « seul Dieu peut me juger ». Donc, d'une certaine manière, si c'est vrai que la chanson est frappante, là, en l'écoutant, on sourit.
Ouais, parce on voit la violence.
Voilà, on voit la violence des clichés, on voit la violence surtout adressée aux femmes qui n'auraient pas le droit d'avoir une sexualité libre. Moi, c'est ça qui me frappe toujours avec ce stéréotype-là. Bon, comme là, on a la radio, on me voit pas, je suis pas du genre hyper sexualisée, mais malgré tout, en tant que féministe, je défends l'idée que les femmes qui le souhaitent puissent s'habiller comme elles veulent. Et donc, si elles ont envie d'être hyper sexualisées ou hyper vulgaires ou hyper maquillées, ben, qu'elles le fassent. Et ce dont on se rend compte quand on entend genre de chansons qui rend bien compte des représentations des beurettes, des filles d'origine maghrébine qui montrent leur corps, qui s'habillent de manière très moulante, qui se maquillent, qui ont une liberté, une sexualité libre et qui l'affichent puisqu'elles se elle déambule, j'allais dire. Enfin voilà, elle se montre comme ça, au bras. Alors là, ce qui pose problème aussi, c'est qu'elle sorte avec des hommes noirs. Et donc ça aussi, on voit encore du racisme dans le racisme, on pourrait dire, puisqu'on les appelle les beurettes à cul, c'est-à-dire les beurettes à noir. On voit bien là que on aurait l'impression que les filles rebeux n'ont pas le droit d'être libres de leur corps.
Et comment est-ce que vous expliquez cette ruée sur la beurette dans l'imaginaire pornographique contemporain ?
Alors,
comment on en arrive là finalement ? Quelle explication vous en donnez ?
À partir de nos lectures, ce qu'on a pu comprendre, c'est que donc là, par exemple, je peux vous renvoyer aux travaux d'Abdelkader Ben Ali sur le cinéma colonial, la représentation entre autres. Il a travaillé sur l'ensemble du cinéma colonial au Maghreb, mais pour répondre à votre question, il faudrait voir les chapitres sur les femmes, la façon dont on représente les femmes indigènes. Je peux aussi citer beaucoup plus actuel, ça c'est des travaux de 90, les travaux de Mehdi Derfoufi, qui travaille sur les post-colonial studies aujourd'hui, chercheur au CNRS, et il enseigne à Paris 8, si je ne dis pas de bêtises, nous apprennent, parmi d'autres, nous apprennent que les représentations des femmes arabes, déjà chez les peintres orientalistes, et ensuite au cinéma colonial, sont peut-être à l'origine de ces représentations aujourd'hui dans les médias de ces femmes soit voilées, comme je le disais. Donc chez les peintres orientalistes, c'était les moukers recouverts d'un haïk blanc. Donc c'est le haïk, c'est le voile blanc que portent surtout les femmes à Alger pendant la période coloniale, qu'on voit bien dans le cinéma colonial, notamment dans la bataille dans la bataille d'Alger, par exemple, de Gillo Pontecorvo, un film culte. On peut voir donc soit cette femme voilée qui est mystérieuse, qui est inaccessible à l'européen, aux colons, ou de l'autre côté des femmes lascives. Donc là, c'est la représentation qu'on va trouver par exemple chez Ingres, des femmes nues, lascives dans les bains maures, donc dans le hammam ou des harems, et qui va ensuite aussi se lire à travers la danseuse dans le cinéma colonial, et qui vont se retrouver aujourd'hui dans les représentations de la beurette.
Oui. Un stéréotype colonial. Alors on en parle ce matin jusqu'à 13h. Je rappelle que votre livre vient de sortir et qu'on en parle. Ça s'appelle Beurette, un fantasme français aux éditions du Seuil.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
On pourrait faire 2 heures d'émission tellement il y a de sujets à soulever autour de votre livre, Salima Tenfish. Ça s'appelle Beurette, un fantasme français aux éditions du Seuil. Alors, il y a le stéréotype de la beurette, mais ce stéréotype côtoie un autre stéréotype, celui de la femme voilée. Et puis, il y en a un autre, c'est la racaille.
Ouais. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, là, je suis en train de me dire, on l'a pas trop traité.
La racaille, pas trop, non.
On l'a pas trop traité parce que finalement c'est une figure qui revient à celle du beurre devenu le racaille qui terrorise les gens de la cité, qui est le voleur de scooter, qui fait du rodéo. Donc finalement ça s'apparente la beurette racaille, elle s'apparenterait au garçon pas forcément violent, mais en tout cas qui traîne, qui est en bas de la cité et qui s'habille en survêtement, qui roule des mécaniques.
Vous avez un souvenir, vous, d'avoir été traité de beurette ?
Non, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous-mêmes, avec Sarah également, on nous a jamais dit beurette ou sale beurette. On n'a jamais été victime de racisme directement. On a plutôt entendu des gens dire de nous qu'on était des beurettes, mais plutôt avec bienveillance. Par exemple, les parents de nos amis qui n'étaient pas maghrébins, qui disaient par exemple, Sarah ou Salima, c'est une beurette. Sous-entendu, c'est une jeune fille sympathique d'origine maghrébine. Mais on nous a jamais adressé à nous cette insulte, ce qui est devenu une insulte. En revanche, on a vécu, et c'est ce qu'on raconte dans le livre, et les filles qu'on a interrogées aussi, la plupart, certaines ont vécu des situations de racisme direct ou de discrimination, mais la plupart ont vécu des choses plus indirectes.
Et moins franches. Que ça, ouais.
Des sous-entendus, des manières de nous faire sentir différents, de nous mettre mal à l'aise.
Alors, il y a les questions de la sexualité sur lesquelles vous avez interrogé les femmes qui ont répondu à votre enquête. Déjà, est-ce que la sexualité, c'est un sujet tabou ?
Ah oui, ça au moins c'est un point commun chez toutes les femmes qu'on a interrogées, quelle que soit leur expérience individuelle, singulière, et quelle que soit leur apparence, c'est-à-dire qu'elles soient très affirmées dans leur sexualité ou non, elles nous racontent toutes, et ça vraiment on le partage, leur première fois comme un moment, alors j'imagine que toutes les femmes pourraient en dire autant, mais comme un moment qui est associé quand même à un franchissement d'un interdit lorsqu'il est réalisé hors mariage. Et chez des femmes qui pourtant ont pas du tout été élevées dans une radicalité religieuse. Qui sont d'ailleurs pour enfin il y en a certaines qui sont pratiquantes, d'autres croyantes non pratiquantes, mais chez, ou d'autres athées, mais chez toutes les femmes qu'on a interrogées ça revient, c'est-à-dire le fait que la première fois c'est un moment qui est à la fois bon fascinant mais terrifiant, parce que on a l'idée que on va quand même malgré tout franchir un interdit, et que si ça se passe mal on pourra s'en vouloir qu'à nous-mêmes, quelque chose comme ça.
Vous avez été élevé et vous avez grandi avec des mythes entourant la virginité.
Oui, le mythe que alors que ça devait faire mal pour certaines, d'autres que on saignait forcément lorsque notre hymen se déchirait, d'autres que la virginité était une chose sacrée, donc qu'il fallait absolument en prendre soin, et donc ne pas offrir son corps à n'importe qui. Donc ce qui nous a frappé en tout cas à travers cette enquête, c'est de voir que même chez des femmes, comme je disais, qui ont pas du tout été élevées dans la religion, ce mythe reste présent.
Vous les avez interrogées également sur l'idée du couple mixte. Finalement, pourquoi les parents maghrébins ont cette opposition? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme explication?
Bon, d'abord, je dirais que parmi les femmes qu'on interrogeait, on a bien vu que c'était plutôt 50-50. C'est-à-dire qu'il y a des parents maghrébins qui n'ont aucune opposition, n'ont manifesté aucune opposition au fait que leur fille ne se marie pas avec un maghrébin, un autre maghrébin. Mais pour ceux qui s'y opposent, alors de ce que nous ont dit les filles qu'on a interrogées, il peut y avoir deux réponses, on va dire. La première, c'est une réponse religieuse, c'est l'idée que l'autre n'est pas musulman. Et dans ce cas-là, si l'autre se convertit, ça n'a pas posé de problème dans la plupart des cas. Et la deuxième réponse, c'est la dilution de la culture, on peut dire. C'est-à-dire le risque de perdre sa culture, de perdre sa langue et d'être...
De pas transmettre, finalement.
Ouais, c'est ça. Et de disparaître. Et quelque chose de cet ordre-là, que ce soit d'ailleurs formulé ou non.
Alors vous vous prénommez Salima et Sarah. Aujourd'hui, de quelle façon la question du prénom se pose-t-elle ?
Je vais vous le dire. Moi, par exemple, je viens d'avoir un petit garçon avec un homme qui s'appelle Jean-Baptiste, donc qui est pas du tout kabyle ou pas du tout maghrébin. Et quand on a commencé à réfléchir au prénom, s'est posé le problème de la double appartenance familiale. C'est-à-dire, on peut dire que c'est une question d'alliance. Moi, je l'avais pas perçu comme ça quand on interrogeait les femmes, mais quand moi je me suis retrouvée devant cette situation, je me suis représenter les choses comme ça, c'est-à-dire que cet enfant, finalement, il appartient, si je puis dire, autant à ma famille et à l'imaginaire et au monde kabyle que à la famille de Jean-Baptiste et à leur imaginaire.
Alors, est-ce que vous vous seriez imaginé l'appeler Jugurtha, Massinissa?
Ouais, à un moment,
Juba.
Juba, ouais. À un moment, je me disais, ouais, Juba. Bon, Jugurtha, je trouvais que c'était un peu lourd à porter, ou Massinissa. Mais Juba, je me disais, pourquoi pas? Donc, je commençais à regarder dans le prénom. Et d'ailleurs, on a longtemps hésité avec Iqbal, qui est un prénom nord-africain, ouais. Assez rare et qui est en plus mixte. Donc, moi, j'aimais bien cette dimension mixte. Et puis finalement, on a trouvé. Alors après, on s'est mis à chercher. Alors lui, il me disait oui, mais et moi, alors de mon côté, bon. Et puis finalement, on a tranché. Je pense comme beaucoup de gens, en allant chercher des prénoms bibliques. Mmh. Et mais moi, ça marchait parce qu'il y a un esprit kabyle qui s'appelle Hazar. Hazar, ah ouais. Qui veut dire racine en berbère. Donc on a appelé notre fils Lazare, puisque ça vient de El Hazar. Donc ça marchait. Mais c'est un jeu un peu.
Ah ouais. C'est du boulot, hein.
Ouais, c'est de la dentelle. Ouais.
Ça aurait pu finir en Erwan, en Ryan.
Ah, peut-être pas, mais sûrement pas même. Mais c'était du. Ou alors on avait pensé à un moment à Jean Karim ou des choses comme ça, des prénoms doubles.
Il faut penser qu'il va grandir.
Ouais.
C'est peut-être plus compliqué, Jean Karim.
Faut l'assumer. Mais ouais. On entend. Moi, j'ai entendu des Louis Karim, des Pascal Ramadan. Donc, ça se diffuse, hein.
Mmh. Sur les questions de religion aujourd'hui, maintenant, comment est-ce que les femmes abordent, que vous avez interrogé, abordent cette question? Parce que vous avez rencontré des femmes qui sont musulmanes, pratiquantes, ouais. Pas pratiquantes, ou de culture musulmane, ouais.
Alors,
ou
ça, laïque. Vraiment, avec la découverte de la beurette film porno, ça a été la deuxième grande surprise de cette enquête. C'est le fait que, selon les générations, le rapport à l'islam n'est pas du tout le même. Donc nous, on a interrogé des femmes de 18 à 50 et ce qu'on a observé, c'est que chez les femmes qui ont entre 40 et 50, la religion n'est quasiment pas présente, ou du moins, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet de combat, c'est pas un sujet d'identité.
Est-ce qu'elles se revendiquent comme musulmanes
ou pas? Non, c'est ça. Elles ne se revendiquent pas comme musulmanes. Elles peuvent l'être. Mais elles n'ont pas l'intention, en tout cas, et le désir de se dire musulmanes. Chez les femmes, chez les petites,
les jeunes,
donc entre 18 et 25, 28 ans, elles, ce qui est frappant, c'est que elles sont quasiment toutes musulmanes, pratiquantes, et elles veulent qu'on leur reconnaisse leur religion. Et ce qui m'a frappé, c'est que chez ces jeunes filles, il n'y a pas du tout, comme chez nous, ce problème d'avoir honte d'avoir une double culture. Ou du moins, il n'y a aucune difficulté à se dire française. Pour elles sont françaises, il n'y a pas de débat là-dessus. Leur problème, c'est qu'on les accepte dans leurs différences, et leurs différences, elles se situent pas dans leur dimension culturelle, elles se situent dans leur religion. Ça, c'est vraiment frappant, qu'elles soient voilées ou non, d'ailleurs, elles veulent qu'on les laisse être musulmanes. Et ensuite, il y a l'intermédiaire.
Et elles font la prière sur leur lieu de travail. Ça, et vous vous demandez, mais comment vous arrivez à faire la prière? Et là, ils vous disent, mais attendez, vous vivez sur quelle planète?
Ça, c'est incroyable, parce que moi qui ai 37 ans, qui ai une mère qui fait la prière... Pour moi, faire la prière, c'était un truc de vieux, quoi. C'était un truc qu'on faisait quand on avait atteint une certaine forme de sagesse et qu'on commençait peut-être vers 60 ans, 70 ans. Mais là, j'ai été confrontée à mes propres représentations, on peut dire racistes d'une certaine manière, ou en tout cas préjugées. Quand des jeunes filles de 20 ans ou 25 ans m'ont dit, si, moi je fais la prière. En début, je croyais que c'était des blagues. Et elles me regardent un peu avec un air de me dire, mais attends, t'es en train de me juger. Donc là, je me calmais. Et elles me disent, moi je fais la prière, je rattrape. Et là, je me suis souvenu qu'effectivement, ma mère aussi, elle fait ça, elle rattrape. Et donc, elles font leur prière avant d'aller au travail et le soir en rentrant. Et pour elles, ça, c'était aussi une grande nouveauté. Elles nous décrivent leur rapport à la prière comme un moment de méditation ou de yoga, un peu New Age, quoi. Donc, elles se mettent en condition de méditation. Et pour elles, ça n'a rien de... Comment dire? Enfin, ça n'est pas incompatible avec leur vie professionnelle. C'est des femmes hyper indépendantes, toutes, qui vivent leur vie librement. Mais elles font la prière. Enfin, elles font la prière.
Et elles ne posent pas la question. Finalement, on se rend compte à la lecture de votre livre que le plus grand des tabous, c'est le porc.
Ouais.
Hein, et que ça reste La viande de porc pour tout le monde. Alors là, quasiment, le plus grand des tabous.
Ouais, alors ça, c'est
la transgression la plus totale.
Ça, on a essayé d'en rendre compte un peu avec humour, mais n'empêche que chez toutes les femmes vraiment qu'on a interrogées, quelle que soit leur position par rapport à la religion, quelle que soit leur couple, quelle que soit leur situation, il y a toujours ce tabou, sauf chez celles qui sont athées et qui se disent athées. Qui sont quand même une minorité, mais sinon, chez toutes les autres, c'est inenvisageable de dire à ses parents qu'on mange du porc. Manger du porc, c'est grave, c'est être traître à son groupe, même lorsqu'on n'est pas pratiquant.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette interdiction de manger du porc ne s'applique pas de la même façon pour la cigarette et pour l'alcool.
C'est interdit, vous voulez dire. Oui, 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 c'est ça. C'est-à-dire que parmi tous les interdits, donc cigarettes, enfin alimentaires, cigarettes, porc, cigarettes, porc et alcool, on se rend compte que le pire pour les femmes, c'est le porc, et pour les hommes aussi d'ailleurs. Tandis que pour la cigarette, bon, bah, c'est mal vu, et comme j'imagine dans beaucoup de milieux un peu traditionnels, c'est mal vu pour une femme de fumer, parce que ça fait libre en fait justement. Hein, ce qu'on reproche aux femmes qui fument, c'est d'être libre, et donc peut-être si elle fume, ça veut dire que en fait elle a une liberté sexuelle. Ouh là là, il faudrait surtout pas. Gardons son utérus pour reproduire le groupe. Hein. L'interdit de la cigarette, c'est plutôt mal vu, mais c'est pas si grave que le porc. Et l'alcool, ça dépend un peu des milieux. On peut, de temps en temps. Alors, il y en a certaines qui me disent, moi, je suis très pratiquante, mais de temps en temps, je bois quand même une coupe de champagne. Alors, je m'étais dit, le champagne, ça fait luxe, donc c'est toléré. Mais le porc, non, le porc, ça, c'est, il faut être athée pour manger du porc.
Alors, vous proposez une expression pour remplacer le mot beurette, c'est le mot rebeu.
Ouais,
pourquoi rebeu, finalement, c'est la synthèse. C'est acceptable.
On sait. Alors, c'est pas forcément une parfaite solution, hein, puisque ça a fait encore une nouvelle catégorie. Mais on s'est rendu compte que nous-mêmes, on disait rebeu, que autour de nous, tout le monde dit rebeu dans le langage familier. C'est pas entré au dictionnaire, donc c'est pas une catégorie qui existe officiellement encore pour le moment. Mais finalement, on se dit que c'est pas mal parce que rebeu, justement, c'est pas genré. À l'oreille, on ne sait pas s'il y a un e ou pas à la fin. Ça fait très français e de dire rebeu comme ça, c'est des sonorités très françaises. Et à la fois, ça vient de arabi qui veut dire arabe en arabe. Donc c'est peut-être pas mal.
Beurette, un fantasme français. Je rappelle que c'est le titre du livre que vous venez de publier. Vous le montrez à la caméra, comme ça.
Il y a une caméra.
Oui, il y a une caméra. Oui,
vous êtes
en fait, vous êtes filmé depuis tout à l'heure. Comme ça, c'est bien. Vous le savez maintenant. Donc, ça sera naturel. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Et puis, d'ailleurs, vous pourrez voir la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Salima.
Merci beaucoup.
Je vous souhaite de passer un très bon dimanche.
Merci.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.